Radio Prague, les informations.
Bonjour, voici les titres de ce bulletin. Václav Klaus renonce à son titre de président d'honneur du Parti civique démocrate. Le Premier ministre tchèque est favorable à la création d'un nouveau groupe au sein du Parlement européen. Et puis en foot, l'attaquant tchèque Václav Svierkoš a signé au FC Sochaux. Le président tchèque Václav Klaus a annoncé samedi à Prague qu'il renonçait à la présidence d'honneur du parti libéral ODS du Premier ministre Mirek Topolánek lors d'un congrès de cette formation qu'il a fondée et dont il était le chef entre 1991 et 2002. « Depuis longtemps, je n'arrive plus à m'identifier avec un grand nombre de positions soutenues par l'ODS, ou plutôt par sa direction », c'est ce qu'a déclaré Monsieur Klaus, très critique envers l'action de Mirek Topolánek à la tête du parti et du cabinet. Dans son bref discours, il a affirmé que l'ODS se transformait, selon lui, d'un parti civique et de droite en une formation centriste qui défend les intérêts de lobbyistes. Fin de citation. Le Premier ministre tchèque Mirek Topolánek, qui se prépare à présider l'Union européenne au premier semestre 2009, a lui annoncé samedi qu'il allait œuvrer après les élections européennes de juin 2009 pour la création d'une nouvelle fraction de droite au sein du Parlement européen. Lors de son discours, Mirek Topolánek s'est de nouveau prononcé en faveur de la ratification du traité de Lisbonne. La République tchèque, rappelons-le, reste le dernier des 27 à ne pas s'être prononcé sur ce document, qui vise à réformer les institutions européennes. Et puis l'élection pour un mandat de 2 ans du président de l'ODS est prévue dimanche matin. Les analystes s'attendent plutôt à une reconduction de Mirek Topolánek, qui bénéficie d'un fort soutien dans les régions, alors que son challenger Pavel Bém, maire de Prague et proche du président Klaus, peut surtout compter sur le soutien de la capitale. Un incident a éclaté vendredi au cours d'une rencontre à huis clos à Prague entre le président tchèque Václav Klaus et une délégation de députés européens. La retranscription de la rencontre a été mise en ligne par le bureau du président tchèque. Parmi les eurodéputés, il y avait notamment le chef des Verts européens, Daniel Cohn-Bendit, qui a dit à Václav Klaus que ses opinions sur le traité de Lisbonne ne l'intéressaient pas et qu'il allait devoir signer la ratification si le Parlement tchèque l'approuvait. « Je dois dire qu'en 6 ans, personne ne m'a parlé sur ce ton », a rétorqué Václav Klaus, attaqué également sur ses liens avec l'Irlandais Declan Ganley. À Dany le Rouge, il a fait remarquer qu'il n'était pas sur les barricades parisiennes. Fin de citation. Et puis, je vous le disais en titre en foot, l'attaquant Václav Svierkoš portera les couleurs du FC Sochaux. À 25 ans, l'international tchèque va signer en janvier prochain un contrat de 3 ans et demi avec le club français. C'est selon les informations du porte-parole de son club actuel, le Baník Ostrava. Meilleur marqueur du championnat tchèque la saison dernière avec 22 réalisations, Václav Svierkoš a déjà joué dans plusieurs clubs étrangers, en Allemagne, dans le Borussia Mönchengladbach et le Hertha Berlin, et en Autriche, à l'Austria Vienne. On termine ce bulletin comme d'habitude avec un mot sur la météo. Pas beaucoup de changements, le ciel en Tchéquie sera toujours nuageux avec quelques pluies et chutes de neige, et les températures diurnes se situeront dimanche entre 2 et 6 degrés. C'était Alexis Rosenzweig pour le bulletin. Dans un instant, la suite du programme en français de Radio Prague.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Auteur de romans, d'essais et de pièces de théâtre, Daniel Salna va collaborer avec des revues importantes dont Temps Moderne, mais aussi avec le journal Le Monde. Sa riche bibliographie témoigne de l'ampleur et de l'importance des thèmes qui l'intéressent, thèmes qui seront peut-être décisifs pour l'évolution de la société. Parmi ces thèmes, le féminisme et la condition féminine, mais aussi le rapport de notre société vis-à-vis des religions. Lauréate de plusieurs prix littéraires, dont celui de l'Académie française, elle a fondé en 2005 un festival littéraire à Savenières, près d'Angers, pays de son enfance. Au début de cette année, elle a publié chez Gallimard une biographie de Simone de Beauvoir. C'est ce livre qui a été évoqué, entre autres thèmes, par Daniel Salnave dans un entretien accordé à Radio Prague.
Et Vous avez écrit un livre sur Simone de Beauvoir. Expliquons d'abord le titre de ce livre. Pourquoi un castor de guerre?
Oui, castor de guerre, c'est une expression qu'elle emploie elle-même quand elle envoie une photo à un ami, comme c'est au moment de la déclaration de la guerre. Elle met castor de guerre, parce que castor était son surnom que lui avait donné un ami. Parce que les castors, c'est des petites bêtes sympathiques qui construisent, qui sont très actives. Ça lui va bien. Et moi, je l'ai pris dans un sens plus large, plus symbolique, comme pour l'image d'une personne qui est toujours combattante, toujours sur la brèche, toujours en alerte.
Pourquoi une biographie de Beauvoir, puisqu'elle a écrit ses mémoires? En quoi ce livre enrichit nos connaissances de sa personnalité?
Oui, mon but était pas seulement d'enrichir la connaissance de sa personnalité, certainement, j'espère, mais surtout de montrer que les mémoires de Simone de Beauvoir ne sont pas simplement une biographie où elle raconte des faits, sont aussi une interprétation qu'elle donne de sa vie. Et ça m'a amusée et intéressée de voir comment elle se voyait, comment elle se racontait, comment elle se décrivait. Et ça, la lecture des mémoires le montre.
Quel rôle cette femme, cette philosophe, cet écrivain a joué dans votre propre vie?
Ce rôle, pour moi, au fond, il est tout entier dans la lecture que j'ai faite du premier volume « Mémoire d'une jeune fille rangée », où elle donnait à ceux qui la lisaient, mais aux garçons, j'espère, autant qu'aux filles, l'idée « je dois choisir librement ma vie ». Si je suis une femme, je ne suis pas obligée de faire ce que veut la tradition, la religion, la morale. Je peux aussi choisir librement d'être mère ou de ne pas l'être. Et pas seulement. Elle voulait un destin d'écrivain, elle voulait un destin de femme qui se choisit librement. Et moi, ça m'a fait donner confiance.
Quelles idées de Simone de Beauvoir sur la femme et la condition féminine restent actuelles?
Ce qui me paraît actuel, c'est qu'elle souhaite qu'on n'accepte pas les formes, quelles qu'elles soient, tantôt économiques, tantôt sociales, tantôt religieuses, de soumission des femmes. Elle voit bien que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu deux sexes et qu'il y a un sexe qui dominait l'autre. Elle cherche les raisons pour lesquelles un sexe dominait l'autre. Et elle pense que la principale raison, c'est que la femme ou les femmes font les enfants. Et elle pense que ce n'est pas le destin des femmes. C'est une possibilité pour les femmes, mais ce n'est pas leur unique destin. Mais il y a pourtant beaucoup d'endroits dans le monde où on pense que les femmes n'ont pas tellement d'autre destin que de faire des enfants. Et pour elles, c'est une manière de réduire leur liberté d'être humain.
Et vous êtes aussi écrivain, et vous avez écrit un roman qui se passe à Venise, La Fraga, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'une femme qui est à la recherche de sa liberté, oui. N'est-ce pas? Dans quelle mesure avez-vous été inspiré en créant ce personnage par les idées de Simone de Beauvoir?
Alors, vous remarquerez que contrairement à Simone de Beauvoir, cette femme a un enfant. Elle accepte cet enfant, elle ne le refuse pas, mais elle voudrait... Et ça, j'ai voulu apporter quelque chose d'un peu différent. Elle voudrait construire avec cet enfant une relation un peu différente des relations qu'elle voit autour d'elle. Elle voit autour d'elle, à Venise, vers 1900, des femmes du peuple. Elle vit dans les quartiers populaires de Venise, qui ont un rapport affectif. Tantôt, elles embrassent leurs enfants, et tantôt, c'est des colères, etc. Elle voudrait un rapport plus rationnel, plus construit. Elle adore son fils, et elle souffrira beaucoup quand son fils sera tué pendant la Première Guerre mondiale. Mais j'ai voulu montrer une femme qui voulait construire. Elle pensait que ce rapport-là, lui aussi, il faut réfléchir, il ne faut pas le vivre comme un animal qui vit son rapport à ses petits.
Dans le livre Dieu.com, vous abordez l'ensemble des problèmes concernant la religion, n'est-ce pas? Quel problème exactement?
Alors, dans Dieu.com, j'ai voulu, au fond, pourquoi j'ai mis ce titre? Parce que ça conjugue quelque chose de très ancien, la croyance religieuse, et surtout les religions instituées, et puis quelque chose de très moderne, qui est l'Internet. Et j'ai voulu voir un peu, réfléchir un peu à ce qu'était la situation des religions à l'époque de l'extrême modernité. Je ne parle pas tellement de la foi religieuse, parce que ça, il n'y a rien à dire. Quelqu'un a une foi religieuse, moi je respecte complètement, c'est une expérience. Mais je parle des religions, avec tout ce qu'elles entraînent de dogmes, tout ce qu'elles imposent aussi, par exemple aux femmes, de soumission, dans l'islam, dans la religion juive, dans la religion hindoue. Le christianisme s'est un petit peu corrigé petit à petit, mais au départ, les femmes n'étaient pas les égales des hommes. Donc ça m'a intéressé de me demander ce qui se passait dans le monde moderne. On pouvait à la fois être fou de technique et d'internet et être pris par ce poids des religions. Et je ne parle pas de la foi religieuse, hein, mais des religions instituées.
Il y a beaucoup de religions. Est-ce que nous sommes encore capables, nous sommes déjà capables d'être objectifs vis-à-vis de ces religions? Est-ce qu'une objectivité vis-à-vis d'une religion est possible?
Moi, je crois que nous autres occidentaux européens, en tout cas, mais pas seulement, on ne peut pas être objectif parce que même si on n'est pas croyant, même si on ne pratique pas de religion, on est élevé dans le cadre des religions monothéistes et de tout ce qu'elles emportent comme idée, comme ordre. Nous sommes à l'intérieur de cela et c'est un peu difficile, certainement. Mais je voudrais aussi pouvoir dire que, eh bien, on peut vivre une vie morale, honnête, à tous les points, privé, public, sans appartenance religieuse. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde doit avoir une religion. Il y a aussi des gens qui n'en ont pas. Et c'est pas mal, à mes yeux.
Et encore une dernière question. Vous avez donné une impulsion pour la création du festival Terre à vin, Terre à livre, à Savennières. Pourquoi est-ce que vous pouvez présenter ce festival?
Alors, ce festival, je l'ai créé dans le village où j'ai passé mon enfance et surtout où mes parents étaient instituteurs. C'est une manière de rendre hommage aussi à l'action qu'ils ont menée comme instituteurs dans un village. Je crois beaucoup à l'éducation, surtout primaire, première. Et c'est un village qui est très beau, qui produit un très bon vin. Moi, je me suis dit, au fond, le vin et les livres, c'est pareil. Ça donne tout le charme de la vie. Ça donne quelque chose de plus et peut-être qu'on peut mettre en parallèle le vin, on le consomme avec modération, mais les livres sans modération.
C'était une rencontre avec Daniel Salnav. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Iveta Sedliska, prise de son.
Bonjour, chers auditeurs. Le Tchèque du bout de la langue que nous vous proposons cette semaine est une rediffusion de l'émission diffusée le 1er décembre 2007. Bonne écoute.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Miku Mikuláš přišel s čertem na koláč. Miku Mikuláš přinesli nám zimní čas. Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje. Miku Mikuláš přinesli nám zimní čas.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Comme chaque année, jeudi soir prochain, 5 décembre, les petits garçons et petites filles tchèques attendront la visite de Saint-Nicolas.
Svatý Mikuláš.
Pour ce qui constitue la fête la plus populaire du temps de l'Avent. En République tchèque, comme dans d'autres pays du nord et de l'est de l'Europe, la Saint-Nicolas est une fête pour les enfants qui met en scène Saint-Nicolas de Myre ou de Bari, à l'origine également du personnage du Père Noël, que les Américains appellent d'ailleurs Santa Claus, Saint-Nicolas donc. Reste que dans chaque pays, les traditions liées à la célébration de celui qui est reconnu pour sa grande générosité et est considéré comme le patron des enfants et des écoliers varient quelque peu. L'occasion donc de rappeler les usages et les coutumes en République.
Je 5. prosince, čert anděl Mikuláš. Každá s hrstkou peří, dnes sešli se jen tři. A já tomu věřím.
Donateur attentionné, représenté sous l'aspect d'un vieillard à barbe blanche portant un long manteau à capuchon ou parfois même des habits épiscopaux, Saint-Nicolas reste aujourd'hui encore également un personnage moralisateur. Il récompense les enfants sages et méritants et punit au contraire les autres, ceux qui n'obéissent pas. Responsable de la troupe théâtrale de la radio tchèque, Zdena Fleglova a donc l'habitude de travailler avec les enfants, dont vous avez pu entendre l'un d'eux en ouverture de l'émission. Elle nous explique donc plus en détail comment se passe la fête de la Saint-Nicolas pour les petits tchèques.
La fête de Saint-Nicolas, je ne sais pas est-ce que c'est du Moyen-Âge ou du XVIIe siècle, mais la fête de Saint-Nicolas est en République tchèque plutôt la fête éducative, parce que Saint-Nicolas demande les enfants et il attend les réponses et les bonnes réponses. Et il est toujours accompagné par le diable et un ange. Et le diable, il punit les enfants qui n'étaient pas sages. Et l'ange, il le fait au contraire, bien sûr. Et Saint-Nicolas, ce grand personnage qui demande aux enfants est-ce qu'il était bon, est-ce qu'ils font l'ordre dans la chambre, est-ce qu'il brosse les dents, est-ce qu'il était gentil, etc., etc. Et les enfants doivent répondre. Et normalement, les parents informent avant Saint-Nicolas quelles sont les choses importantes pour les enfants et quelles questions ils doivent poser aux enfants. Alors, c'est très personnel toujours. Et surtout pour les petits-enfants, c'est la fête pleine de trembler.
Ils ont peur.
Ils ont beaucoup de peur, oui, parce que Saint-Nicolas, il sait toutes les choses. Et il sait comment l'enfant était pendant toute l'année. Ouais. Et après, Saint-Nicolas demande la poème ou la chanson, et l'enfant doit chanter ou dire quelque chose, et après reçoit le cadeau, surtout les bonbons ou les chocolats ou quelque chose comme ça.
Vous l'aurez donc compris, en République tchèque, le 5 décembre au soir, soit la veille de sa fête, Saint-Nicolas défile donc dans les rues accompagné d'un petit diable
Čertík
et d'un petit ange
Angeliček.
Auprès des enfants, l'évêque de Myre, ancêtre du Père Noël, s'enquête de savoir s'ils ont été bien sages à la maison et ont bien appris leurs leçons à l'école. Ensuite, les enfants, en échange d'une friandise, de chocolat ou de fruits, lui récitent un poème ou chantent une chanson.
Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukně, přišli k nám pod okno, byli oba smutní.
Mais attention, si le petit garnement a fait des bêtises ou s'il n'écoute pas ce que lui disent ses parents, c'est alors le diable qui entre en scène et lui remet un morceau de charbon. Ce diable qui est en fait l'équivalent du père Fouettard, qui accompagne Saint-Nicolas dans tous ses voyages comme le veut la tradition dans d'autres régions et qui punit les enfants de différentes manières. Mieux vaut donc être bien sage, comme le sont les petits diables, pardon les petits comédiens, de la troupe théâtrale de la radio tchèque lorsqu'ils chantent en chœur. C'est tout en effet pour ce tchèque du bout de la langue, consacré donc à la célébration de la fête de la Saint-Nicolas en République tchèque. En attendant sa venue la semaine prochaine, soyez donc bien sages, petits et grands, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Courrier des auditeurs. Jarka Gisubelova.
Bonjour à vous toutes et à vous tous, correspondants et auditeurs fidèles de Radio Prague. Je suis heureuse de pouvoir vous tenir compagnie pour ce premier courrier du mois de décembre. Les premières cartes de vœux commencent à parvenir. Merci pour la très belle carte dessinée par le président du Radio DX Club d'Auvergne, Monsieur Jean Pierron. Au moment où la nouvelle année s'approche, je viens vous présenter nos vœux de santé, de joie et de bonheur. J'ai dessiné pour vous ce cèdre plus que centenaire, qui soit le message de notre fidélité envers votre service français. Il symbolise la solidarité et la pérennité, autant de qualités qui peuvent définir nos relations amicales. Peut-être aurons-nous la joie d'accueillir cette année un membre de votre service, continue M. Pierron. En effet, comme vous l'écrivez, votre association se prépare d'ores et déjà à fêter la prochaine semaine de la francophonie qui aura lieu du 16 au 23 mars 2009. Ce sera un honneur pour notre station d'être représentée à votre exposition de produits envoyés par des pays amis que vous organiserez à cette occasion. Exposition bien internationale, je cite. Nous avons déjà eu la joie d'accueillir 137 journalistes francophones de multiples stations du monde. Si vos pas vous conduisent en Europe à cette époque, ne manquez pas de vous arrêter à Clermont-Ferrand où le meilleur accueil vous sera offert. Merci, Monsieur Pierron, de cette invitation. Merci de votre fidélité à notre service français.
Je pozdě odpoledne, už se tetky scházejí. Každá za stůl sedne a svůj dech zatají. Horký kafe na plotýnce, pojď dál, co si dáš. Je 5. prosince, čert, anděl, Mikuláš. Každá z hostkou...
Merci dans ce courrier à l'association des originaires et amis des pays tchèques et slovaques de nous avoir envoyé son bulletin du mois de décembre. En première page, une invitation pour ce samedi le 6 décembre dans ses locaux rue Bachelet à Paris où Saint-Nicolas Mikuláš attendra les enfants et où un riche programme est préparé à leur intention. Passons maintenant à la lettre de notre fidèle auditrice, Madame Henriette Durand, qui m'a rempli d'admiration et je me permets d'en citer quelques lignes. « J'ai 75 ans, je vis seule, indépendante, je trouve la vie très agréable malgré tout ce qui se passe. » Je ne suis pas une indifférente à ce qui m'entoure et me touche. Je corresponds aussi avec Radio Bulgarie depuis 2001. Nous vous remercions, chers amis, d'avoir pensé à nous, non seulement par cette lettre, mais aussi par un petit cadeau et une carte avec une vue de la tour du grand port de votre ville, Libourne.
A ja tomu věřím, že lítaj v povětří. Saze hvězdy, anděle a jejich dědečci.
Une très bonne radio, bon signal pour vous écouter. Lisons-nous avec plaisir dans la lettre qui nous est parvenue de Narbonne, de la part de Monsieur Henri Balboa, et qui nous pose la question de savoir, pour vous, est-ce toujours le nom pour le passage à l'euro? En France, la vie a beaucoup changé depuis le passage à l'euro. Le panier de la ménagère augmente à vue d'œil chaque semaine. Les magasins se permettant d'augmenter les prix d'une semaine à l'autre. En ce qui concerne l'entrée de la République tchèque dans la zone euro, il semble qu'elle se fera encore attendre. Selon le Premier ministre, il faut d'abord terminer la réforme des finances publiques, du régime des retraites, de la santé et d'autres secteurs avant d'introduire l'euro en Tchéquie. Selon le ministre de l'Industrie, nous ne sommes pas préparés pour l'année 2012, une date dont on parle encore en 2007. Aujourd'hui, il semble que ce ne sera pas avant 2014. La situation est similaire pour la Pologne et la Hongrie. En revanche, la Slovaquie adoptera l'euro dès le 1er janvier 2009. Ces jours-ci, les citoyens slovaques sont en train d'acheter les premiers paquets euros avec la nouvelle monnaie. Un euro s'échange contre plus de 30 couronnes slovaques. En attendant l'introduction de la monnaie européenne dans leur pays, les Tchèques, pour lesquels la Slovaquie est la deuxième destination touristique préférée, auront ainsi l'occasion de comparer et de goûter aux retombées de l'introduction de la monnaie unique. « Radio Prague est également écoutée et captée en Côte d'Ivoire, comme en témoignent les rapports d'écoute envoyés par M. Philippe Aubre, coordinateur du CARJ DX Group. Nous confirmons la réception de vos résultats d'écoute, chers amis. Du programme écouté, vous avez évoqué un reportage de la première conférence internationale sur la méthamphétamine qui était organisée au mois de septembre dernier à Prague. À bien écouter ce reportage, écrit M. Aubre, les consommateurs de drogue sont un peu partout. Une subsistance produite à l'origine pour des curatifs et détournée de son but pour servir à des besoins malsains. Que prévoit la législation tchèque en la matière, quand bien même, selon votre interlocutrice, les saisies sont infimes comparativement à la Suède ou la Norvège? Eh bien, selon le dernier rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, la République tchèque occupe l'une des premières places en Europe dans la consommation de drogues dites douces. Plus, notre pays détient une triste primauté dans la consommation de la méthamphétamine, appelée aussi pervitine, une drogue typique tchèque. Pour changer cela, et puisqu'il est facile à la fabriquer à partir de médicaments contenant de la pseudoéphédrine, la vente de ces médicaments va être réglementée à partir du 1er janvier 2009. Ainsi, il ne sera pas possible d'en acheter plus d'une boîte par semaine en vente libre et l'identité du client sera enregistrée à la pharmacie. Pour une plus grande consommation, une ordonnance sera demandée. Les statistiques démontrent en effet que sur 1 million de boîtes de médicaments contenant de la pseudoéphédrine vendues en 2007, 90% d'entre eux ont été utilisés pour produire de la drogue. Cette mesure devrait donc créer un obstacle et liquider une partie des petites laboratoire qui la fabrique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Au revoir et à très bientôt sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.